BW. Droits et libertés.
C'est un rapport conséquent qui vient d'être publié par le collectif Tournons la page. Son titre, Togo, une tradition de répression. Dans ce document, le collectif recense d'innombrables violations des droits humains au Togo, donc depuis 2017. Mais il s'agit aussi de tout un système répressif et autoritaire qui y est mis à jour. Une mise de l'appareil judiciaire et du pouvoir législatif au service des responsables en place. Le président Fornia Simbe, dont la famille dirige le Togo depuis 1967, et son parti, l'UNIR. Pour en parler avec nous, Brigitte Amegamvi, elle est membre du collectif Tournons la page et milite également au sein de l'association Synergie Togo. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. Brigitte Amegamvi, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous faites partie du comité de pilotage de Tournons la page internationale et vous nous parlez donc de ce rapport publié cette semaine, Togo, une tradition de répression. Fin 2016 déjà, il y a eu au Togo de grandes manifestations, notamment estudiantines, qui ont été réprimées par les autorités. Plusieurs ONG de défense des droits humains et même les Nations Unies se sont inquiétées d'un recours excessif à la force lors de cette répression. Et vous, Tournons la page, dans ce rapport, essayez de dresser un bilan des violations des droits humains qu'il y a eu depuis 2017 en tout cas. Et en fait, il y en a eu beaucoup. C'est-à-dire que la situation, selon vous, loin de s'améliorer, est même une régression par rapport à 2017 pour ce qui est de l'espace civique au Togo.
On peut caractériser le système dynastique qui est au pouvoir au Togo depuis six décennies par trois points. Une tradition de répression, c'est le titre du rapport. Je rajouterai une instrumentalisation de la justice et du pouvoir législatif, transformée en fait en bras armés, destiné à donner à cette répression un visage présentable à la face du monde, hein, puisque le Togo fait partie d'un certain nombre d'organismes internationaux, notamment le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et troisième caractéristique, le règne de l'impunité qui garantit aux auteurs de ces violations des droits humains et à leurs commanditaires une impunité totale, malgré que un nouveau code pénal adopté en 2012 sanctionne par exemple les crimes de torture par des peines assez lourdes et surtout rend ces crimes de torture imprescriptibles. Alors quand on parle de tradition de répression, ça recouvre beaucoup de choses. Ça couvre par exemple la répression des manifestations sur la voie publique, répression qui déborde souvent d'ailleurs dans les domiciles privés à la suite des manifestations. Et ces manifestations sont réprimées par des armes létales et par armes létales. Moi, j'inclus parfois les gourdins, parce qu'il y a des personnes qui sont battues à mort. La tradition de répression couvre également les arrestations arbitraires, qui sont désormais faites à titre préventif.
Voilà, vous parlez aussi des conditions de détention déplorables, y compris de l'existence de lieux de détention non officiels. De quoi s'agit-il ?
Absolument. Alors, lorsque les arrestations préventives dont je parlais tout à l'heure sont effectuées, les gens raflés dans les rues, à leur domicile ou arrêtés en plein jour, sont détenus dans un premier temps dans des lieux qui ne sont pas des lieux officiels de détention. Parfois, ce sont des camps militaires ou dans des lieux qui ne figure nulle part dans le répertoire des lieux de détention. Et c'est dans ces endroits-là qu'ils sont interrogés par des méthodes musclées, torturés, et qu'on leur arrache des aveux. En général, pendant ces périodes, ils sont réputés avoir disparu. Et puis parfois, on les voit réapparaître quand ils sont déposer au SCRIC, qui est un service de renseignement local, ou carrément déposer dans des prisons où on les retrouve par miracle. Voilà, où ils sont détenus pendant plusieurs jours, voire pendant plusieurs mois sans procès, avant d'être, dans certains cas, présentés devant un juge qui les condamne sur la base de dossiers qui ne comportent aucune preuve, qui sont juste des accusations. Et c'est en cela que nous parlons d'instrumentalisation de la justice à des fins de répression, parce que la justice est devenue finalement l'institution qui donne une face présentable à ces arrestations arbitraires en condamnant les gens pour des crimes qu'ils n'ont pas connus.
Et qui sont les personnes qui sont ciblées plus particulièrement par cette répression ?
Alors, on a eu toute une vague en 2018-2019, voire jusqu'en 2020, des membres du Parti national panafricain, PNP, qui étaient à l'origine des manifestations massives d'août 2017.
Le PNP, c'est le parti de Tigbi Hatchadam.
Voilà, ce sont essentiellement des gens réputés proches de ce parti ou simplement des gens qui sont des membres de la famille d'un membre lointain du PNP ou des sympathisants ou toute personne susceptible d'être liée à un membre du PNP. Et essentiellement, la plupart des membres de ce parti sont originaires d'une région autour de la ville de Sokodé.
Mais il y a aussi toute une frange de la population qui n'est pas officiellement membre d'un parti politique ou d'organisation politique qui souffre, ne serait-ce qu'indirectement, de la répression, parce que vous parlez aussi de coupures d'Internet, de médias qui sont muselés, d'écoutes téléphoniques. Il y a tout un appareil de surveillance aussi qui entrave des citoyens, pas forcément militants.
Oui, tout à fait. Un autre volet de la répression, c'est aussi toute une série d'entraves à la liberté de la presse, donc un retour à la criminalisation du délit de presse qui avait été décriminalisé avec le nouveau code pénal dont je parlais tout à l'heure. Et maintenant, il y a toute une série de censures de médias qui se mettent en place, donc coupure Internet pendant les périodes électorales ou pendant les périodes de manifestation, et une loi répressive qui a été adoptée maintenant et qui sanctionne les administrateurs, par exemple, des réseaux sociaux pour publication de fausses nouvelles, un certain nombre d'actes des journalistes en ligne, dans des émissions, par exemple, sur la télé, sur les télés privées ou Internet, ne sont pas couverts par cette décriminalisation du délit de presse.
Dans le rapport, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, vous dénoncez la non-séparation dans les faits des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires. Donc vous appelez à un changement de l'appareil législatif, à l'adoption de nouvelles lois, à l'application aussi de certaines lois qui existent déjà. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraisemblable? Vous le disiez, la famille du président actuel est au pouvoir depuis 1967, lui-même dirige le Togo depuis 2005. Est-ce qu'il y a un espoir que votre appel soit entendu pour des réformes profondes?
Alors, l'instrumentalisation de la justice, j'en ai parlé tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que parfois, c'est carrément le procureur de la République qui organise des fausses preuves, qui fait de la subornation de témoins pour leur demander d'accuser un tel et un tel. Et ce qui est dramatique, c'est que souvent, même lorsque les personnes arrêtées à la suite de ces fausses accusations sont libérées, il reste toujours un contrôle judiciaire qui impose à ces personnes d'aller demander l'autorisation du juge à chaque fois qu'ils veulent, par exemple, sortir du territoire. Le maigre espoir qui existerait que la situation évolue quelque peu, ce sont les prochaines élections législatives qui auront lieu l'année prochaine. Mais quand on sait comment les élections sont organisées au Togo, C'est-à-dire que tout est sous le contrôle du parti au pouvoir, de l'exécutif. C'est donc un horizon mais vraiment, vraiment très fermé et une répression qui se renforce d'année en année et de mois en mois. Et mais il n'y a plus qu'une mobilisation massive de la société civile qui pourrait donner un autre cours à cette situation dramatique que vit le Togo.
Mais quels sont ces moyens d'action à la société civile ? Vous venez de parler de cet appareil répressif qui peut écraser dans l'œuf toute velléité de contestation. On sait déjà que le président Fornia Simbé va pouvoir se représenter en 2025 s'il le souhaite. Comment faire pour des citoyens de base, des militants de base d'associations ou d'organisations de la société civile au Togo pour agir quand même ?
Et c'est vrai que c'est une action qui est très difficile, hein, mais moi je dis autant les autorités en place ne s'attendaient pas du tout aux manifestations et enfin aux soulèvements, moi je les appelle soulèvements populaires, hein, qui ont eu lieu d'une part en 2012 et puis ensuite en 2017. C'est bien connu, hein, que des régimes aussi répressifs que ceux-là, ils ont beau essayer de contraindre les gens, de les empêcher à un moment ou à un autre, la cocotte minute explose et voilà, et ça donne des insurrections. Et ce qu'il faut craindre, c'est que cette fois-ci, ça risque d'être d'une violence inouïe.
Donc ce que vous dites, c'est que le pouvoir en place aurait tout intérêt à réformer le Togo, à desserrer la vis pour éviter ces violences qui seraient difficiles à canaliser ?
Tout à fait, tout à fait.
Brigitte Amegovi, un grand merci.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de donner un écho le plus large possible à ce rapport. Oui.
C'est la fin de ce magazine. Merci beaucoup à Brigitte Amegovi et au collectif Tournons la page. Pour podcaster cette émission, allez voir sur notre site internet dw.com/français à la rubrique Nos podcasts ou sur les plateformes de balado-diffusion habituelles. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.